respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique.
On s'amuse à aménager, mais enfin, ça n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se contenter d'habiter, de cohabiter, de discuter. Moi, je parle du dialogue.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bernard et Audrey, c'est notre première véritable émission pour Territorialité, donc c'est le baptême du feu, on va dire. Nous avons avec nous Patrick Hugh, architecte urbaniste valentinois, qui va intervenir dans toute cette émission également. Alors, cette première émission, c'est la thématique générale, c'est un petit peu la problématique du déclin des villes moyennes au bénéfice des métropoles. Est-ce que c'est une fatalité ? Voilà, donc on va aborder cette problématique avec ce concept des villes moyennes. Ce sont des villes qui sont considérées de 15 000 à 100 000 habitants, hein, selon l'Association des villes de France. Il faut savoir qu'il y a quand même 22 millions d'habitants, 34% de la population, qui vivent dans ces villes intermédiaires, moyennes. Donc c'est très important. Et surtout, aujourd'hui, on ne parle plus tellement de villes moyennes. Hein, Audrey, on parle de villes à taille humaine, parce que Audrey, moyenne, intermédiaire, ce n'est pas très bien vu tout ça.
Effectivement, Bernard qui dit moyen dit finalement quelque chose qu'on situe entre deux extrêmes, entre petit, grand, et ça ne fait pas forcément rêver. Nous, pourquoi on a choisi de parler de ville moyenne ? C'est parce qu'on connaît bien Valence, qui est une ville dite intermédiaire, et puis des villes comme Bourg-les-Valence, Romans, qui s'inscrivent bien dans cette définition-là. Ce qu'on va essayer de voir, c'est à la fois quelles sont les caractéristiques plutôt objectives de ces villes-là, de ces territoires, comment on les perçoit en tant qu'analystes, chercheurs, comment on les ressent aussi, comment on les vit, tout simplement, en tant qu'habitantes et habitants. Et puis, dans la mesure où elles peuvent cristalliser une certaine attention du fait de difficultés qu'elle rencontrerait, eh bien, on va aussi s'intéresser à la façon dont les pouvoirs publics cherchent à les redynamiser.
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on constate depuis le début des années 2000, c'est quand même une actualité forte, un déclin relatif de ces villes moyennes au profit des métropoles, les fameuses métropoles de Lyon, Paris, Marseille, Grenoble autour de nous. Donc, et c'est une véritable problématique que ce déclin relatif des villes moyennes. On constate, par exemple, que la population stagne dans ces villes. Elle est de plus en plus âgée. On constate que les diplômés vont plutôt vers les métropoles. On constate aussi une tendance à la paupérisation des centres-villes. Bien sûr, le déclin du petit commerce au profit des zones commerciales périphériques. Et puis aussi, ce problème de l'habitat dans les centres-villes, qui est vacant, souvent. On constate aussi que les classes moyennes et les classes aisées, elles s'en vont. Elles s'en vont plutôt vers les couronnes périurbaines, avec leurs zones pavillonnaires. Voilà. Et puis, qui dit ces villes intermédiaires aussi, on pense aussi tout voiture. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des villes où tout est conçu pour la voiture, où l'espace est très minéralisé avec beaucoup de parking. Bref, un tableau un peu sombre.
Alors oui, Bernard, là, pointes les éléments qui ne sont pas forcément les plus glorieux. Néanmoins, ce sont aussi des villes qui attirent, qui ont donc des avantages du fait qu'elles ont cette fameuse taille humaine. Donc, il y fait aussi bon vivre. D'ailleurs, on en est la preuve vivante puisqu'on a fait le choix de s'installer
dans
ici.
Ces villes.
Alors, si tu peux, sans que ce soit une liste exhaustive, nous dire un petit peu dans quelle mesure elles attirent aussi et elles arrivent à conserver une population qui s'y sent bien.
Bien sûr. Et bien d'abord, ces villes, elles ont une taille de dimension humaine. C'est des villes où on peut facilement, évidemment, rencontrer des gens. On n'a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller faire son commerce ou rencontrer des amis. C'est aussi des villes comme Valence où il y a encore des parcs et des espaces verts importants, notamment par des jardins privés, aussi par les jardins privés des gens. Espaces verts importants, mais quand même menacés par l'artificialisation des sols de plus en plus. C'est des villes aussi où il y a une vie associative très dynamique. Par exemple, Valence, avec son réseau de maisons pour tous, ses centaines de clubs sportifs, le foisonnement des associations, par exemple, tournées vers le bien-être du corps, et cette fréquentation qui ne faiblit pas. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que, rapidement, quoi, je trouve plutôt positif dans ces villes. Mais...
Oui, en effet, tu soulignes la proximité, le fait que finalement, c'est une façon de ne pas tomber dans l'écueil de l'anonymat des grandes villes, vivre dans des villes intermédiaires, puisque on peut tout à fait croiser des gens qu'on connaît sans forcément l'avoir prévu. Et pour autant, on ne connaît pas tout le monde. Donc ça, c'est souvent un indice, un bon entre-deux, on peut dire ça comme ça.
Tout à fait.
Et sur les services, l'offre culturelle, associative, on va aussi avoir pas mal de possibilités. Là où, en milieu rural, finalement, ça sera plus restreint, ou alors il faudra recourir à la voiture pour pouvoir aller faire un cours de yoga, de danse ou autre, quoi.
Tu as raison. Donc nous allons ensemble un peu décrypter ces phénomènes qui caractérisent des villes moyennes, aussi en donnant la parole aux premiers concernés, hein, c'est les commerçants, les habitants et les experts, comme notre ami Patrick, qui est architecte.
Bonjour Audrey, bonjour Bernard.
Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Territorialité.
Alors, le premier phénomène dont on a parlé dans ces villes moyennes, qui aujourd'hui est un sujet d'actualité, c'est la problématique des commerces de centre-ville. Qui n'a pas vu dans des villes intermédiaires, dans des villes moyennes, des pancartes, des vitrines vides, des panneaux locaux disponibles, des stores métalliques baissés? Il faut savoir que la Fédération du commerce spécialisé, qui regroupe les plus grandes enseignes, à noter que depuis les années 2000, le taux de vacance commerciale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la part des locaux commerciaux inoccupés, ne cesse de progresser. En 2016, il atteint 12% dans les villes de moins de 100 000 habitants, alors que dans les villes de plus de 500 000, il est de 7%. Alors c'est vrai que depuis le confinement et la crise sanitaire, le e-commerce a explosé et on assiste à une modification en profondeur des habitudes aussi de consommation et de production. Est-ce que ces phénomènes... Pensez-vous que ces phénomènes sont annonciateurs plutôt de la disparition des commerces de centre-ville? C'est une question qu'on a posée à des commerçants de Valence, à commencer par la responsable de l'Étincelle. Bonjour Mélanie, tu es responsable de la librairie L'Étincelle au centre-ville de Valence. Quel regard portes-tu sur ton activité et sur celle du secteur de la librairie au centre-ville aujourd'hui ?
La librairie, c'est un secteur, enfin, je sais pas comment dire, c'est quand même un secteur qui est un commerce, qui est parmi les commerces les moins rentables en France quand même, mais c'est un secteur qui se porte assez bien. Et en France, il y a toujours de nombreuses créations de librairies, même s'il y en a certaines qui ferment, il y en a beaucoup qui se créent. On a eu un vrai effet rebond suite au confinement, avec beaucoup de clients qui sont revenus nous voir. Ils étaient inquiets de la santé, de la fragilité des librairies, donc ils sont vraiment revenus en librairie. Même des nouveaux clients qui avant étaient peut-être des clients qui changeaient souvent de modèle ou qui allaient vers Amazon, des choses comme ça, qui sont revenus dans des petits commerces indépendants, des petites librairies indépendantes. Après, ça reste un secteur fragile, mais qui se porte plutôt bien actuellement.
Ouais. Et quelles sont les difficultés que tu vois aujourd'hui à ce type de commerce et de façon plus générale au commerce du centre-ville, enfin plus particulièrement sur le secteur que tu connais? Quelles sont les difficultés aujourd'hui?
Sur le secteur du livre, nous, on doit se battre face à le point fort où on n'est pas forcément toujours les meilleurs, c'est sur les délais de livraison, quand on souhaite des colis, des livres qu'on n'a pas en stock. Donc là, sur les délais, c'est sûr que les gens peuvent des fois trouver plus rapide, donc c'est un peu un point, on essaye de se battre au niveau du syndicat de la librairie française pour diminuer ces délais auprès des fournisseurs, mais pour l'instant,
d'accord,
ça ne progresse pas dans tous les domaines. Donc ça, c'est un secteur qui nous freine un peu. Après, on a beaucoup de clients qui sont quand même patients. On a quand même aussi beaucoup de livres en stock. Donc quand on a en stock, on est plus rapide que les autres. Après, le commerce, d'une façon générale, sur Valence ou en centre-ville, les fragilités peuvent des fois être des clients qui justement s'éloignent hors des centres-villes et qui vont dans les zones commerciales. On a aussi le problème peut-être des loyers qui sont élevés. Enfin, à Valence, en tout cas, il y a certains encore propriétaires qui ont des loyers qui sont vraiment, pour moi, je trouve, trop élevés pour une ville comme Valence, avec l'activité qu'il y a à Valence, et qui mettent vraiment des commerces en difficulté, alors que c'est vraiment le loyer qui est trop élevé et pas autre chose, quoi, et qui peuvent des fois mettre vraiment en fragilité des commerces.
Tout à fait. Tu m'avais parlé aussi des gens qui venaient à vélo.
Bah oui, moi j'ai pas mal de clients qui viennent à vélo, donc c'est super, mais certains se plaignent qu'il manque un peu de parc à vélo pour garer leur vélo. Il y en a près de la mairie, mais ils sont souvent pleins, donc j'ai plusieurs clients qui des fois, donc ça arrive que des fois ils les mettent le long de la librairie, mais c'est pas toujours évident non plus. Donc oui, j'ai plusieurs clients qui des fois disent on vient en vélo, mais on sait pas où les garer.
Eh oui, il faut faire des nouveaux parcs à vélo au centre-ville.
Voilà.
Quel impact pour toi a le commerce en périphérie, dans les grandes zones commerciales, type Cultura? Est-ce que ça a un impact sur les activités des libraires au centre-ville pour toi?
Oui, je pense que ça a un impact, forcément, pas que sur les librairies. De toute façon, les grosses zones commerciales en périphérie attirent quand même du monde et que ça impacte, je pense, tous les commerces. Nous, en Valence, on a en effet Cultura. Après, là, cette année, heureusement, il y a eu les cartes passe région qui, depuis 2 ans, ne sont plus acceptées ni par la FNAC ni par Cultura suite à une décision de la région. Donc ça nous a refait venir du monde en librairie indépendante. Et le passe région plus pour les personnes âgées qui est en train de se mettre en route. Donc qui fait venir du monde en librairie indépendante. Donc ça, c'est quand même bien.
Super.
Mais c'est vrai que oui, ça a un impact. Les gens, quand ils vont dans une grosse zone comme ça, s'il y a Cultura à côté, ils vont acheter des livres en même temps et ils vont oublier un peu la librairie de centre-ville.
À la suite de la crise sanitaire, on dit que les achats en ligne se développent beaucoup. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur ton activité ou pas?
C'est difficile à évaluer en fait, mais oui, il y a beaucoup de gens qui commandent que en ligne. Mais après, on a aussi en librairie, en tout cas, un système qui s'appelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça s'appelle Chez mon libraire, c'est un site internet où les gens peuvent réserver et commander des livres via les librairies indépendantes qui sont adhérentes au site. Donc ça leur permet de voir si une librairie précise, l'Étincelle, l'Oiseau Siffleur, Notre Temps, la Procure à Valence, a tel livre, le réserver ou le commander.
D'accord.
Donc c'est très pratique et ça permet ainsi un peu de... Ça évite aux clients de faire toutes les librairies quand ils cherchent un livre précis et d'aller direct au bon endroit et d'avoir le livre tout de suite. Donc c'est quand même intéressant aussi. Donc on a ce biais-là par ce site Chez mon libraire ou librairie indépendante qui permettent aux gens aussi de regarder en ligne de chez eux, de commander le soir à 10h du soir directement à la librairie, donc c'est quand même pas mal.
C'est bien pratique.
Après, les ventes en ligne, on sait qu'elles augmentent un peu tous les ans quand on regarde les statistiques. Nous, à la librairie, ça ne se ressent pas encore dans notre chiffre d'affaires, mais c'est quelque chose qui préoccupe quand même un petit peu. On ne sait pas, les achats futurs, les jeunes qui sont très réseau, très tablette, très internet, comment ça va jouer sur les 10-15 ans à venir après, quoi.
D'accord. Donc
ça, c'est un souci.
Eh bien, je te remercie.
Merci.
Oui, alors, discussion entre nous, peut-être. Effectivement, cette interview vient un peu contrecarrer ce qu'on a dit avant, puisque Mélanie est plutôt optimiste sur son commerce. Finalement, les achats en ligne... Ça n'a pas l'air de trop la gêner, parce qu'il y a des sites de libraires indépendants qui mettent aussi en ligne. Qu'est-ce que vous pensez de cet avis?
Alors, je vois qu'en fait, ça répond à une forme de pluralité de modes de vie, de modes de consommation dans la ville, parce que finalement, ce que dit Mélanie, c'est qu'il y a quand même du passage. Il y a encore des clients potentiels qui viennent à vélo. Et effectivement, moi je distingue bien, c'est un mode de vie plutôt qui se laisse aller à la rencontre. Quand on vient au centre-ville, on vient flâner dans les librairies, puisqu'en fait on vient quelque part à la rencontre des livres, et même aussi des libraires, puisqu'on vient rechercher une discussion, un échange, et ça vient pas forcément en contradiction avec l'idée d'immédiateté. Lorsqu'on commande en ligne, quand on commande en ligne, effectivement, on fait un acte d'achat, on a besoin que ça soit sûr et livré dans un délai assez court, alors que quand on va en librairie, on ne sait pas ce qui adviendra de cette visite.
Il y a une inconnue, effectivement.
Il me semble qu'il y a eu, à un moment donné, une mobilisation, en tout cas une interpellation des libraires à l'attention des lecteurs, avec l'initiative J'aime mon libraire, qui avait pour but aussi d'essayer de préserver ces commerces, ou en tout cas de faire en sorte de privilégier ceux-là, alors même que même les libraires sont quelque part en concurrence avec les centres commerciaux. Je pense à, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais voilà. Vous avez certainement pensé au même que moi, où on trouve des fournitures scolaires, où on trouve des livres, et où c'est pratique finalement d'en profiter pour acheter des bouquins, là où on n'aura pas le conseil qu'on trouve chez son libraire. Donc voilà, je crois qu'il y a à la fois une forme de concurrence réelle, mais des atouts que les libraires en centre-ville ont, et qui leur permettent quand même de se maintenir et d'avoir une activité qui reste tout à fait rémunératrice.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça se confirme avec l'interview suivante de Céline, qui est responsable de la boutique éthique, à qui nous avons demandé en fait comment se portait son activité actuellement.
Aujourd'hui, alors déjà, je peux vous dire déjà que le commerce d'une manière générale au centre-ville, on le sait bien, c'est pas une nouveauté, va pas très bien depuis quelques années. C'est pas que le Covid qui a fait que les commerces du centre-ville ne vont pas très bien. C'est un tas de facteurs structuraux politiques, ça, voilà, je vous laisse le soin d'en parler. Le commerce d'une manière générale va pas très bien. Le mien en particulier ne va pas si mal que ça. On a décidé de s'implanter justement au centre-ville parce que le cœur d'une ville, c'est là où bat aussi, devrait battre l'activité, et on y croit beaucoup. Et j'allais dire, le commerce du centre-ville, les commerces du centre-ville, c'est des commerces où il y a de la proximité, où on recherche la proximité, ce qui a finalement rien à voir avec les commerces des périphéries, où on est là pour acheter du vêtement le moins cher possible. Le commerce du centre-ville a vraiment cette spécificité de donner envie de venir aussi discuter avec les commerçants qui sont là aussi pour ça.
Tu m'avais dit d'ailleurs que les commerces de la rue, de la grande rue, s'en sortaient pas si mal que ça. Pourquoi ?
Mais j'ai pas de réponse. Je suis pas sociologue, je suis pas analyste, mais en tout cas, quand il y a qu'à regarder il y a quelques années, il y avait plein de pas de porte à vendre. Aujourd'hui, dans le centre-ville de Valence, dans la grande rue, il y en a pas autant que ce qu'on imagine. Enfin, ça serait faux de penser qu'il y a encore il y a encore des locaux vacants. Je pense que c'est quand même aussi. Alors, une petite explication, c'est sans doute dû quand même au fait qu'il n'y ait pas de franchise dans notre rue. Donc, c'est vraiment une rue qui est sympa parce que c'est des petits commerçants et qui sont là aussi pour, dans la recherche aussi du plaisir de recevoir dans leur magasin les clients qui viennent.
Oui, c'est très important. C'est des commerces qui sont indépendants, en fait.
Voilà, c'est ça.
Ils ne sont
pas liés
très souvent à des franchises.
C'est ça.
Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu penses que le commerce périphérique dans les banlieues, enfin dans les grandes zones commerciales, est-ce qu'il a un impact négatif sur le commerce du centre-ville ? Quel est ton avis là-dessus ? Et également sur le commerce en ligne, le développement des achats en ligne qui s'est beaucoup développé, surtout dans cette période pandémique, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ces deux choses par rapport au commerce du centre-ville ?
Alors, si tu veux, moi, je ne serais pas à me dire qu'il faut opposer les commerces des périphéries avec le commerce du centre-ville. Je dirais plutôt que c'est des propositions différentes. On ne va pas dans un commerce de périphérie comme on vient au centre-ville. Encore une fois, les commerces de proximité, c'est des commerces où on vient aussi discuter, échanger. Et notamment, à la boutique éthique, on vient parler du commerce équitable, on vient parler de la répercussion du commerce sur l'environnement. Et ça, si tu veux, c'est pas dans les périphéries qu'on va trouver ça. Après, c'est pas une opposition. Il ne faut pas le voir comme une opposition, mais plutôt comme des commerces différents.
Et l'achat en ligne ?
Et l'achat en ligne, c'est pareil. Je veux dire, je vois, moi, au combien on accompagne les personnes qui viennent essayer des vêtements ou des chaussures. Je ne vois pas comment on peut choisir des chaussures et des vêtements de la même manière en ligne. Il faut faire du 38 ou du 36. D'accord. Il faut faire un pied normal pour acheter en ligne. Les gens qui viennent ici, on les conseille, on les accompagne. Et c'est ça qui fait la richesse et la différence avec le commerce en ligne.
Super. Merci Céline. Et bien maintenant, on va faire une petite pause musicale avec Grand Corps Malade. Je suis un enfant de la ville.
J'avoue que c'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne. Quand tu ressens ce besoin, que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute? Je voudrais surtout pas représenter l'écolo relou à 4 centimes. Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça faut qu'on l'estime. Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les apparts s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime? D'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence. J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des vissages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des vissages. Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie, même sur nos bouts de trottoir. Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent. Je ressens ça à chaque heure et jusqu'au bout de mes phalanges. Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut. Ça sent le vrai, l'authentique, peut-être que c'est ça le truc. Quand on le regarde dans les yeux, on voit que s'y reflètent nos vies. Et on comprend que slam et hip-hop ne pouvaient naître qu'ici. Difficile de traduire ce caractère d'urgence qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance. Besoin de cette agitation qui nous est bien familière. Je t'offre une invitation dans cette grande fourmilière. Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain. Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain. J'ai l'amour de ce désordre et je ris quand les gens se ruent comme à l'angle de Broadway et de la 42e rue. C'est que je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je me sens chez moi à Saint-Denis quand il y a plein de monde sur les quais. Je me sens chez moi à Belleville ou dans le métro new-yorkais. Pourtant j'ai bien conscience qu'il faut être sacrément taré pour aimer dormir coincé dans 35 mètres carrés. Mais j'ai des explications, y'a tout mon passé dans ce bordel. Et face à cette folie, j'embarque mon futur à bordel. À bord de cette pagaille qui m'égaye depuis toujours. C'est beau une ville la nuit, c'est chaud une ville le jour. Moi dans toute cette cohue, je promène ma nonchalance. Je me balade au ralenti et je souris à la chance d'être ce que je suis, d'être serein, d'éviter les coups de surin. D'être surin ou de bons coups pour que demain sente pas le furin. Je suis un enfant de la ville, donc un fruit de mon époque. Je vois des styles qui défilent, enfant du melting pot. Je suis un enfant tranquille, avec les poches pleines d'espoir. Je suis un enfant de la ville, ce n'est que le début de l'histoire. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages.
Voilà, après le commerce du centre-ville, parlons de l'habitat maintenant. On sait que dans ces villes moyennes, dans ces villes intermédiaires, la population a tendance à stagner et à vieillir, notamment c'est le cas de Valence, et les logements vacants se multiplient dans de nombreux centres de ces villes intermédiaires. Ainsi, l'évaluation du dernier PLU de Valence pointe sur la période 2011-2016 une diminution de la population de 0,2% par an. Une tendance très nette au vieillissement, avec en particulier une diminution des classes d'âge 0-30 ans et une augmentation des plus de 65 ans. Bien sûr, ce qui caractérise cette chose dans le logement, c'est les fameux panneaux à louer ou à vendre qui sont témoins du nombre de logements vacants qui sont de plus en plus nombreux. À Valence, on a 14% de logements vacants. C'est quand même énorme, alors que ce taux est de 7% sur l'ensemble de l'agglo. Un autre chiffre qui m'a beaucoup frappé à ce moment-là, c'est qu'on a construit sur Valence 300 logements par an entre 2011 et 2016, et en même temps, on a 1000 logements vacants. Donc, cherchez l'erreur, 1500 logements produits et 1000 logements vacants, il y a quand même des questions à se poser. Qu'en penses-tu, Patrick
de... Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette production de logements, il y a d'autres facteurs que de répondre à des besoins en logement. Mais on est plus dans des phénomènes de relance, des projets à construire, des marchés de l'immobilier. Donc on a bien des phénomènes qui sont exogènes au mode de vie des habitants. Donc il y a bien d'autres facteurs.
Eh oui, tout à fait. Alors, pour lutter contre ce phénomène de déclin des centres-villes, l'État, les collectivités ont décidé d'agir, notamment par des opérations cœur de ville, qui concernent, je crois, en France, 222 villes moyennes, telles que Montélimar, Romans et bien sûr Valence. Audrey, tu peux nous en dire plus et de quoi retournent ces opérations ?
Oui, alors je vais vous faire un petit topo de la communication officielle par rapport à ce programme national dont fait partie, auquel participe plutôt Valence. Donc l'idée, c'est de pouvoir bénéficier d'un soutien financier de l'État pour revitaliser les centres-villes. Là, ça va concerner une période de 2018 à 2022. Et les objectifs affichés, en tout cas pour Valence, ce sont les suivants. Attirer des habitants, acquérir et réhabiliter des logements. Donc il y a bien la dimension commerce et la dimension habitat. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Développer une nouvelle offre commerciale et accompagner les commerçants dans la transition numérique. Donc il y a quand même, on voit bien, un focus sur le commerce. Là où la revitalisation des centres-villes, c'est aussi d'autres sujets transversaux comme la qualité des espaces publics, la végétalisation, etc. Alors, par rapport, tu as donné plusieurs chiffres, Bernard. En préparant l'émission, je suis allée regarder des chiffres sur lesquels se repose notamment le maire président de l'agglo, Monsieur d'Aragon. Et ça se recoupe bien. Par contre, il faut faire attention. On parle de vacances au niveau des commerces et de vacances dans le logement. Donc, au niveau de Valence, on est plutôt bon par rapport à la vacance au niveau des commerces.
Tout à fait.
Puisqu'on se situe à 7%, là où la moyenne est de 10,5% selon les chiffres de Monsieur d'Aragon. Par contre, on n'est pas bon en termes de vacances dans le logement. On est plutôt largement au-dessus de la moyenne. Alors bien sûr, la ville ne communique pas sur ces chiffres, mais ça, on ne va pas lui jeter la pierre. Par contre, on peut se questionner sur le fait que ce n'est pas une priorité, visiblement, que s'est donné Valence et l'agglo de lutter contre la vacance dans le logement. Il faut savoir qu'on a quand même donc des moyens qui sont mis à disposition avec une convention multipartite, avec le département qui abonde, la région, l'État, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence nationale de l'habitat, donc ça c'est par rapport à la rénovation du logement, les chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et de l'artisanat qui se mobilisent. On a à travers une figure qui est le town manager qui... Et la personne qui coordonne finalement l'application de ce programme de revitalisation à Valence. Et d'ailleurs, on pensait peut-être l'interviewer. Ça viendra dans une prochaine émission potentiellement. Et là où j'avais une interrogation, une envie de partager avec toi, Patrick, c'était sur la question de comment on arrive finalement à attirer des personnes dans le centre-ville. Est-ce qu'on s'y prend de la même manière que dans une zone commerciale, puisque il y a des atouts que le centre-ville n'a pas et inversement? Moi, il me semble qu'une des premières réponses, ça serait le soin apporté à l'espace public. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, en tout cas, j'en pense dans ces dynamiques d'attractivité. En fait, tout dépend aussi des besoins. C'est-à-dire on n'attire pas les commerçants ou les habitants de la même manière, puisque les besoins ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que je m'explique, les commerces ont besoin effectivement qu'il y ait des, comment dire, des personnes qui viennent passer dans les commerces, alors que les habitants ont des besoins, en fait, qui sont liés à leur mode de vie. C'est-à-dire sur notamment la question, par exemple, des mobilités, d'habiter en centre-ville, se pose la question du déplacement entre le domicile et le travail. Et autrement, il y a un autre facteur que je suis en train de me demander sur les questions de vacances. Qu'est-ce qui fait l'effet qu'on a des logements inoccupés? Il y a aussi le fait que ça ne réponde plus au confort du mode de vie actuel. C'est-à-dire des logements plutôt bien isolés, plutôt avec des espaces confortables en termes de surface. Et aujourd'hui, effectivement, les plans de revitalisation sont plutôt des incitations financières, mais il n'y a pas les moyens opérationnels pour rénover les logements. Parce que c'est en fait, c'est effectivement plus compliqué de rénover des copropriétés, puisqu'il faut se mettre d'accord ensemble. Donc ça implique de se mettre en accord, donc d'arriver à animer
une
animation au niveau des propriétaires. Et puis il y a aussi un énorme frein, c'est-à-dire que au niveau culturel, c'est pas ce qui est ce qui fait l'imaginaire de du logement, parce qu'on parle bien du logement aujourd'hui, et non de l'habitat. C'est-à-dire on cherche avant tout un logement où trouver un toit et dans lequel on ajoute différentes fonctions. Où est-ce que je vais travailler, où est-ce que je vais faire mes courses, alors que dans un mode de vie plus de la question de la proximité, si on enlève la question de la voiture, effectivement ça peut être en fait la voiture fait que on a une possibilité de vivre très loin des services et de se déplacer davantage pour répondre à ses besoins. Et donc, pour arriver à, quelque part, à donner un attrait au logement en centre-ville, il faudrait effectivement que ces qualités soient mises plutôt à connaissance, que effectivement on trouve aussi des services et on retrouve une façon de vivre la ville de façon plus vivante, moins fonctionnaliste.
Moins fonctionnelle, quoi. Tout à fait.
Territorialité.
Oui, pour poursuivre ce que disait Patrick, des caractéristiques aussi de ces villes moyennes, c'est que les classes moyennes, justement, les plus riches, s'en vont habiter dans les communes périurbaines, dans le petit pavillon de banlieue, pour avoir son petit bout de prairie, son bout de jardin, sa tranquillité. Ce sont des villes où, dortoirs, finalement, où triomphe le modèle pavillonnaire, l'étalement urbain, et puis son corollaire qui est le tout pour la voiture, dont parlait Patrick, qui est si pratique, si fonctionnel pour faire tout ce qu'on a à faire. Sur cette problématique des parcours résidentiels, qu'en penses-tu, Patrick? Est-ce que tu penses que c'est une tendance, tu as un petit peu répondu tout à l'heure d'ailleurs, mais est-ce que c'est une tendance qu'on peut inverser et quelles orientations il faudrait prendre en matière d'habitat dans les centres-villes pour enrayer ce phénomène de départ vers la périphérie?
Effectivement, quand on parle de tendance, il y a bien un phénomène, de mode, quelque chose de culturel. Et si on remonte un peu le temps, la production de masse des logements s'est effectuée pendant les Trente Glorieuses et répondait à un besoin fort de la population qui est de se loger. dans la façon où il y a eu beaucoup de croissance démographique dans les villes. Et puis, il y a aussi un modèle, hein, c'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle de construction sociale pour tous, plutôt à une logique de vous allez devenir propriétaire. Et dans ce qu'on appelle les parcours résidentiels, c'est qu'on trouve son premier logement accessible en location. Le modèle culturel qui est toujours dominant, c'est effectivement de devenir propriétaire, d'être primo-accédant, et notamment sur tous les dispositifs de l'État, notamment sur les prêts à taux zéro oui. qui ont démarré dans les années 90. C'était de favoriser justement l'accès à la propriété et qui répond à un besoin social, effectivement, de changer de statut. Mais on est bien toujours sur cette question de se loger et on oublie notamment ce qui pourrait changer la tendance, c'est de se poser la question de où on habite. Parce que quand on habite, on a des voisins, on s'inscrit sur un territoire, dans une géographie. Et c'est là où ça peut prendre sens. Et notamment, on est dans une logique où on construit un projet. C'est-à-dire qu'on n'achète pas effectivement un logement sur catalogue, où on inscrit une maison conventionnelle sur un terrain qu'on aurait acheté, mais plutôt à une réflexion effectivement qui s'inscrit plutôt dans la durée, mais permet de s'interroger sur les modes de vie. Donc quelque part, c'est une transition qui est à mettre en place, et ça, c'est déjà de montrer les possibles que de comment vivre ensemble. Quels sont les espaces où on a du commun et ce que n'offre pas effectivement cette production de masse dans les logements.
Eh bien, merci Patrick. Je vous propose qu'on écoute « Toi, toi, mon toit » d'Eli Medeiros.
Toi, toi, mon toit, toi, toi, mon tout, mon roi, toi, toi, mon toit. Toi, toi, mon tout, mon roi. Yeah.
Alors, les villes, c'est les villes moyennes notamment, ont tendance aussi un peu à se ghettoiser. C'est vrai que on constate, enfin moi j'ai pu constater que de plus en plus de résidences privées se barricadent, se clôturent. Même par exemple les cités, enfin dans les cités HLM, il y a des résidences qui sont maintenant fermées. Les quartiers populaires ont un peu de tendance à se replier sur eux-mêmes. Et ça est accentué par les coupures urbaines que constituent par exemple des boulevards de ceinture entièrement routiers qui séparent absolument les quartiers de Valence-le-Haut, par exemple, des Charents. L'identité de quartier, hein, le replissement sur la sphère privée se renforce souvent au détriment des liens sociaux et des liens entre les quartiers. Alors là-dessus, j'ai interrogé Yacine, éducateur spécialisé, pardon, sur la question des espaces publics dans le quartier du Plan. Et je vous invite à l'écouter. Oui, bonjour Yacine. Bonjour. Alors tu es éducateur spécialisé à la Nef, tu m'as expliqué.
C'est ça.
Tu habites Valence depuis 45 ans, donc tu connais bien cette ville. Oui. Tu as vécu à Fontmarlette, tu as vécu au Grand Charent, tu as vécu
à
la Chamberlière. Donc tu as vraiment une bonne vision des quartiers. Et tu es également, maintenant tu vis un peu à l'extérieur du Plan, près
en périphérie,
de la,
c'est
périphérie,
ça.
Quoi, de Montpellier.
Et tu voilà. continues de travailler sur Valence.
Et tu continues à travailler sur Valence, donc oui. C'est vraiment intéressant. Et je voulais savoir, donc, toi qui connais bien cette ville, comment tu perçois un petit peu les équipements publics sur ce quartier, sur les quartiers de Valence-le-Haut, et notamment les équipements pour les jeunes et pour tous les habitants d'ailleurs, notamment les espaces publics.
Bien, écoute, moi je te parlerai plus spécifiquement ce que je connais, donc en l'occurrence... le parc Jean Perdry,
oui.
C'est un endroit que je connais depuis mon enfance, que je fréquentais depuis tout petit. Dans les années 80, on pouvait même s'y baigner dans cette eau. Aujourd'hui, j'aurais du mal à y tremper un orteil. Voilà. Donc tu vois un peu la dégradation lente de la qualité.
Ouais. Il y a plus de vases que d'eau, en fait.
La moitié de vases, la moitié d'eau, exactement. Ouais. C'est ça, donc là, ça laisse pas beaucoup d'espace aux poissons pour évoluer.
Quel dommage, oui.
Voilà, en dehors de ça, tu as le parc. Le parc en lui-même, c'est vraiment un écrin. C'est un écrin, ce parc, vraiment, moi j'ai toujours qu'il est... Il est à Valence ce que l'Amazonie est à la planète. C'est le poumon de la ville. Voilà, c'est le grand intérêt d'habiter sur le haut de Valence. En dehors de ça, c'est deux cités qui n'ont aucun intérêt.
Oui. Oui, en fait, le parc pourrait vraiment...
Il y a un potentiel énorme, ce parc, voilà, s'il était exploité à sa juste valeur. Et surtout, pour moi, c'est un espace un vecteur pour la mixité sociale.
D'accord.
Pour que les gens puissent se rencontrer, se croiser, échanger. Et pour l'instant, je trouve que c'est loin d'être le cas.
Ben oui.
Parce que les gens, beaucoup de Valentinois, ne le connaissent même pas, n'y vont pas, parce qu'ils n'ont pas de raison d'y aller. Ça ne leur donne pas envie, tout simplement. Les équipements, il y a des aires de jeu qui ont été faites récemment, elles sont bien, voilà, mais encore insuffisantes parce qu'il n'y a pas que les petits-enfants, il y a aussi les plus grands occupés.
Oui,
voilà.
Bien sûr.
Donc il y a des équipements sportifs qu'on peut mettre en place.
Oui.
À l'instar d'autres villes, par exemple, qui ont mis en place des équipements, ce qu'on appelle de workout.
Ah, voilà. Tu peux m'expliquer ce que c'est, ça?
Donc c'est un équipement fixe, rigide, qui est mis dans le sol et ensuite,
d'accord,
ça bouge plus. Voilà, ça permet de faire de la musculation avec le poids du corps.
Tout
voilà,
à fait.
Pour vraiment ados, jeunes, plus grands. Et c'est magnifique.
Bah, oui.
Ça permet à tout le monde de pouvoir s'exercer et forcément sans horaire, sans contraintes financières. Et ça donnerait envie aux gens de venir.
De venir.
Voilà,
oui.
D'occuper les jeunes qui. Voilà, qui sont un petit peu dans l'oisiveté, ça donne envie de faire un peu de sport.
Ouais, je partage complètement ce point de vue avec toi et je pense que ça serait bien aussi de rendre l'accès à ce parc plus facile quand tu viens à pied ou en vélo avec cet effet de coupure du boulevard, tu vois. Il faudrait vraiment qu'on puisse naturellement pouvoir aussi avoir envie d'aller à ce parc.
Ça serait bien parce que tout le monde, tout un chacun prenne conscience du potentiel de ce parc qui est vraiment... d'ailleurs, pour moi, c'est un des joyaux de Valence, quoi.
Oui.
Donc là, Yacine nous parlait d'un espace vert public emblématique de Valence, qui est le parc Jean Perdri, situé dans les quartiers Fombarlette et Duplan. Et par là même, il souligne l'importance de, quelque part, la qualité de vie, la qualité de l'air en ville. Tout à l'heure, on a parlé du centre-ville, on a parlé de la place qui est accordée à la voiture et du stationnement aussi, finalement, puisque si on vient, mettons qu'on vienne en voiture en ville, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais si on laisse la voiture, si c'est un choix d'essayer de se déplacer à pied, à vélo, il faut aussi quelque part avoir des lieux de stationnement pour les vélos. Est-ce qu'il y en a assez, pas assez? Pourquoi, à un moment donné, les habitants cherchent à vivre en centre-ville, peut-être aussi pour être moins dépendants de leur voiture? Et ces dernières années, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient fait le choix de venir habiter à Valence, qui venaient de différentes grandes villes, dont Paris, bien sûr, et qui avaient quitté Paris parce que c'est une ville très polluée. Alors, à travers l'association Banque Publique, notamment, on avait découvert que finalement, Valence, c'est quand même une ville où la qualité de l'air est loin d'être optimale. À ce propos, on aura l'occasion d'entendre un témoignage, celui du docteur Devy. Mais avant ça, Patrick, est-ce que tu pourrais revenir sur la question de l'effet îlot de chaleur en ville?
Alors, la question de l'îlot de chaleur, c'est lié à la configuration du bâti, comment la ville s'est construite. Et effectivement, avec les phénomènes de réchauffement climatique et du fait des nuisances que tu as évoquées tout à l'heure par les voitures, effectivement, on concentre la chaleur et avec les effets de canicule, on a l'air n'a pas le temps de se rafraîchir. Donc on a bien ces phénomènes-là qui sont liés à l'activité intrinsèque de la ville. Mais effectivement, on verra qu'il y a d'autres phénomènes exogènes qui viennent de l'extérieur.
Mmh. Ok, merci. On va maintenant entendre Bernard Devy, donc, qui est médecin à la retraite et qui va évoquer cette question-là de la qualité de l'air en ville.
Que Valence-Ville, qui est évidemment très impactée par l'asset elle-même. On considère que si on prend la carte sur le site d'Atmo, quand on prend la commune de Valence, il y a un trait qui est rouge en permanence. Et rouge, ça veut dire qu'on dépasse en permanence les seuils. C'est une bande qui fait environ, à la louche là encore, 300 mètres autour de l'autoroute, et où on est en permanence au-delà des seuils, ou presque. La nuit, ça va baisser un peu, encore que ça ne dépend pas forcément de la nuit, mais disons que c'est des formes vraiment d'extrême pollution. Si on va prendre un village comme Combeauvin, je crois que ça fait partie de l'agglo, c'est évident que... Et au total, les normes qu'on nous annonce sont des moyennes, comme tu disais, et font que globalement, on est en dessous des seuils fixés, que même les seuils nationaux qui sont plus laxes que les autres, on reste en dessous en moyenne. Mais il n'empêche que ponctuellement, et pas tellement ponctuellement, mais que pour revenir à Valence, la ville de Valence est énormément, on peut dire, très polluée. Elle a un niveau de pollution qui est, allez, en gros, comparable à celui de Lyon et Grenoble, qui sont réputés être forts.
On vient d'écouter Bernard, donc, qui nous rappelle le lien entre les métropoles et Valence. Donc on voit le lien de dépendance qu'on a, même au niveau des services, mais on voit aussi, effectivement, au niveau des pollutions. Mais ce qui fait aussi le propre et l'identité de Valence, de cette proximité avec les métropoles. Et effectivement, on a beaucoup parlé tout à l'heure de mobilité, et on est bien dans cette interdépendance entre ville moyenne et métropole. Et donc, l'avantage d'être en ville moyenne, c'est qu'en tant que citoyen, on a un plus grand accès aux outils, justement, de l'urbanisme.
Et après, on établit le PADD. Et là, le PADD, il fixe vraiment les orientations qui vont être prises par le PLU. Et donc, ça va conditionner la suite.
Nous entendions un extrait de Causerie depuis peu et à l'initiative de Patrick You, qui est notre invité aujourd'hui sur le plateau de l'émission Territorialité. Sont proposées aux Causes Toujours, au Café Associatif de Valence, des causeries sur l'espace public, sur l'aménagement, l'urbanisme. Et là, on entendait Anne-Marie qui évoquait le PLU, le PADD du PLU. donc c'est le projet d'aménagement développement durable du plan local d'urbanisme, parce qu'en ce moment, on est en train de réviser le plan local d'urbanisme de Valence et ça donne lieu à une concertation officielle et puis c'est l'occasion aussi de discuter des projets à venir pour Valence en termes d'aménagement. Il va y avoir d'autres rendez-vous. La prochaine causerie, ça sera le 7 novembre de 14h à 16h. Et là, le thème en est la transition écologique. Et la causerie d'après, ça sera donc le 5 décembre. Et le thème est genre et espace public. Donc ces cafés, ces causeries se tiennent au café associatif de 14h à 16h les samedis.
Vous êtes les bienvenus.
Eh bien, merci. Merci à vous. Merci Bernard. Merci Patrick. Je vous propose qu'on se retrouve lors d'une prochaine émission autour d'un thème qui est lié à des choses qu'on a touchées du doigt aujourd'hui, qui est la relation entre ville et campagne. Et puis, les solutions qui grouillent autour de l'économie collaborative, l'économie sociale et solidaire, et sur des renouvellements de pratiques en ville, à la campagne, et les articulations, justement, entre métropole, territoire rural et périurbain. Merci à vous et à très bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique.
On s'amuse à aménager. Mais enfin, ça n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se contenter d'habiter, de cohabiter, de discuter. Moi, je parle du dialogue.